Tous les 3e et 4e jeudis de chaque mois à 18h, retrouvez Boris dans Culture G. Culture G, c'est un concentré d'anecdotes, de réflexions ou d'histoires appliquées à la chanson. Boris vous propose un artiste, un événement ou encore un concept abordé en musique. Culture G, l'émission qui fait le point sans bouton.
Bonjour à tous, bienvenue dans Culture G, c'est la dernière émission de la saison. Et pour l'occasion, c'est exceptionnel, j'ai un invité avec moi, alors que dis-je ? J'ai deux invités. Alors le premier s'appelle Denis Raquin, le deuxième, eh ben c'est moi. Eh oui, alors c'est assez bizarre, mais vous allez comprendre, je suis mon propre invité. Bonjour Denis.
Bonjour Boris.
Comment allez-vous ?
Bien, je suis heureux d'être dans les Ardennes, puisque je viens de Dijon.
Ah oui, vous arrivez de Bourgogne, hein. Vous êtes venu spécialement nous voir pour l'occasion. Alors, on va quand même éclairer un peu nos auditeurs. Vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Et pourquoi on est là tous les deux réunis dans cette émission ?
Alors, j'ai pas trop envie de me raconter, mais je suis comme beaucoup de gens, j'ai plusieurs étiquettes. C'est-à-dire qu'en 89, j'étais chargé de mission pour la ville de Paris, en particulier au moment du bicentenaire de la Révolution, puisque c'était le thème. J'ai fait des émissions de télévision à l'époque sur ce sujet. Je suis spécialisé dans l'architecture funéraire et j'ai fondé l'association historique du cimetière du Père Lachaise. J'ai également...
Mais vous avez, attendez, vous avez combien de cordes à votre arc ?
J'en ai encore d'autres. La base, le thème, c'est toujours l'histoire. Je suis aussi vice-président de l'association des Amis de Frédéric Masson, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française et un grand historien de Napoléon. Et à ce titre, j'ai été un des plus jeunes directeurs du souvenir napoléonien, la plus grande association historique et la plus riche en histoire sur Napoléon.
Eh bien, dites donc.
Professionnellement, j'ai été décorateur. Mais maintenant, et là on se rapproche de notre sujet, je suis vendeur d'antiquités sur Internet, mais en fait, à 90%, je vends des horloges. Et là, on se rapproche de notre sujet.
Ah, enfin ! Mais qu'est-ce que vous faites dans cette émission avec moi ? Ben, c'est que tous les deux, on a fondé, il y a quelques années, on va dire un partenariat à visée humaniste, on peut dire que ça comme ça. On a créé une collection.
Absolument, une collection
d'horlogerie
qu'on a rassemblée, qui est chez vous.
Elle est chez moi, dans les Ardennes, l'une des plus belles collections d'horlogerie d'une marque. Hein, on n'a pas bien sûr toutes les horloges ni toutes les pendules qui puissent exister depuis la création. On se cantonne à une marque qui est quand même bien bien spécifique, puisque c'est un fleuron de l'industrie française au XXe siècle. Cette marque a été, on va dire, naturellement choisie par moi, par vous, parce que elle présente une grande diversité de modèles. Il y a toute une histoire derrière. On va en parler tout au long de cette émission. C'est la marque Jaz, J-A-Z. Alors, les plus anciens connaissent, j'en suis certain. Ceux qui me connaissent, bah, bien sûr, je suis indissociable de toute mon horlogerie. Donc, chez moi, eh ben c'est un musée, c'est le musée de la marque, avec des pendules, des réveils, des horloges, des objets publicitaires. Aidez-moi, j'en oublie certainement.
Des catalogues.
Des catalogues, bien sûr.
Des plaques émaillées.
Des affiches. Et
tout ce qui se rapporte à cette marque.
Et cette passion qui était une collection s'est transformée en encyclopédie, une encyclopédie numérique. Un site internet,
c'est... Dont vous avez trouvé le nom en reprenant un ancien slogan de la marque.
On l'écoutera tout à l'heure.
Voilà, c'est Jazz le bon temps.
Jazzlebontemps.com. Voilà, donc on n'est pas une association, on n'est pas une entreprise. C'est un collectif d'amateurs éclairés qui ont le même objectif.
Oui, alors, on n'est pas seul. On a depuis été rejoint par des amis. Romain Gallardo, qui est un jeune horloger. Nous avons un correspondant en Alsace où se trouvait une des usines de Jaz, notre ami Mariano Macor. Nous avons Stéphane Gorget qui, lui, s'occupe des montres, parce que Jaz a aussi fait des montres à partir des années 70. Et enfin, nous avons notre ami Marc Barra qui, lui, est à Cannes et qui s'occupe de la partie moderne, alors enfin de tout jazz, mais lui il va un peu plus loin, il va jusqu'à l'an 2000 quand l'entreprise, la marque s'éteint.
On a chacun nos spécificités.
Absolument,
d'une
on
certaine
se complète.
Façon, et on se complète bien. Donc voilà, une belle démarche, une belle aventure que l'on vit tous les deux depuis 6 ou 7 ans maintenant.
C'est ça. On compte plus le temps, Boris.
Ah ben non, on ne compte plus le temps, hein. On ne compte plus les minutes, les secondes, les heures, hein. Et ah ben vous savez, ici c'est quand même une émission musicale. Alors après cette petite présentation de Jazz le Bon Temps, eh bien une petite chanson qui s'appelle L'horloge de ma grand-mère. Ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, bien sûr.
Oui, au menteur, vous connaissez pas. Vous ne connaissez
on
pas.
On l'a choisi ensemble.
On l'a choisi ensemble, une chanson des années 30, si je me trompe pas, interprétée par Jean Sirgeau.
L'horloge de grand-mère est très vieille vraiment. Elle troublait naguère mes beaux rêves d'enfant. Quand dans ma chambre obscure son tic-tac régulier semblait battre la mesure à mon mobilier. Je voyais sans surprise sur ma table de nuit un marquis avec une marquise s'animer lorsque sonnait minuit. Et dans l'ombre imprécise, l'orchestre préludait. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Le marquis chantait. La marquise enfin dansait. En dansant la gavotte, ils allaient lentement, se tenant la menotte, ainsi qu'au bon vieux temps. Et la grâce câline de mes petits jouets était soudain plus divine avec le menuet. Que l'aube grise blanchissait le rideau, mon marquis, ma marquise s'endormait aussitôt. Dans ma chambrette claire, je voyais au réveil l'horloge de ma grand-mère avec le soleil.
Oh là, tic-tac, tic-tac. L'horloge de ma grand-mère par Jean Sirgeau. Donc, on est dans les années 30. Alors, vous êtes toujours sur Radio Bouton, hein. Faut pas se tromper. On n'est pas dimanche matin. Parce que c'est plutôt le dimanche matin qui est la chanson ancienne sur Bouton. Mais bon, vous savez déjà tout ça par cœur puisque vous êtes de fidèles auditeurs. On est dans Culture G. J'ai Denis Raquin en face de moi. Qui est avec moi le créateur du site Jazz Le Bon Temps, spécialisé dans l'horlogerie française et particulièrement la marque Jazz, hein, qu'on a un peu oublié quand même, hein, Denis, hein, les jeunes.
Oui, effectivement, officiellement, la marque s'arrête en 2000, mais elle a été relancée en 2016. Et là, quand même, comme c'était la plus importante marque d'horlogerie française, elle a marqué les esprits.
On espère que, en tout cas, ça va reprendre ses lettres de noblesse comme ça l'a été dans le passé. Mais alors, On va quand même retourner un petit peu en arrière. Bon, l'horlogerie en France, c'est pas nouveau. Ça commence quand, Denis, vous êtes quand même les deux pieds dans l'histoire.
Oui.
Racontez-nous un petit peu l'horlogerie française. Ça commence où? Ça commence quand? Alors, je vous parle pas de la clepsydre, du sablier, du cadran solaire. Hein, on va pas remonter jusque là. On est dans l'horlogerie mécanique. Hein, voilà, on connaît les clochers, les pendules dans les beaux châteaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'horlogerie mécanique populaire. Racontez-moi un peu. Vous connaissez mieux le sujet que moi.
Alors, comme vous me l'aviez dit, le réveil matin n'a pas toujours existé. Et il est revendiqué en création par les Américains un petit peu à tort. Ils prétendent qu'un certain petit apprenti horloger qui avait du mal à se réveiller le matin et qui se prénommait Levy a créé un réveil. Mais ça n'a aucune conséquence, aucune suite, aucun développement, aucune commercialisation. Donc c'est un petit peu l'inverse de l'aviation où les frères Wright revendiquent la création des avions, de l'aviation, et on pourrait dire que Clément Ader a fait un avion avant, mais comme il n'y a pas de conséquences, c'est sans suite. L'invention du réveil matin est française.
Ah, cocorico.
Absolument, on peut. C'est Antoine Rédier. Et pourquoi je dis que c'est français? Parce que non seulement il invente le réveil, mais surtout il le développe, il le commercialise.
Antoine Rédier.
Et on trouve en vente régulièrement des réveils Antoine Rédier qui datent de la moitié de la fin du XXe siècle. Mais c'est un petit peu rudimentaire, mais ce sont des réveils matin.
D'accord, hein, qui a un peu à peu près la forme de ce qu'on connaît.
Non, pas du tout. C'était rond. Le réveil comtois auquel vous pensez, avec des cloches sur le sommet, c'est la fin du 19e. C'est essentiellement la marque Japy.
C'est aussi le réveil américain. C'est ce qu'on appelle le réveil américain à l'époque.
Aussi, après, ça s'est développé partout.
Un peu plus tard.
Oui, oui, en Allemagne, en Angleterre.
Mais alors, avant le réveil, comment on faisait pour se réveiller?
Eh bien,
moi, je le sais. Hein.
Est-ce qu'on avait besoin de se réveiller? En fait, on se réveillait avec le jour, avec les coqs, avec les cloches, parce que à l'époque, la France était agricole. En fait, on va commencer à avoir besoin des réveils à partir du moment où la France devient un pays industriel avec des ouvriers qui doivent se lever.
Alors, à peu près à quelle époque?
Oui, fin 19e, début 20e.
D'accord.
Voilà. Alors, comment se réveillait-on à l'époque? Les ouvriers étaient réveillés par des prestataires, si je puis dire, de service, qu'on appelait les réveilleurs. En Angleterre, on les appelait les knockers.
C'est les petits métiers de rue, ça.
Voilà,
comme les vitriers.
Absolument.
Ils sont très connus, quand même.
Ils étaient payés par les usines pour aller, alors ils avaient une liste d'adresses de gens qui devaient réveiller le matin en frappant leur porte. Et il y avait même, parfois,
des sarbacanes.
Absolument, avec des petits poids. Qui tapait sur les vitres pour réveiller, alors pas toute la maisonnée, mais et ne partait que quand les gens montraient leur nez à la fenêtre. Vous parlez d'un réveil, c'était un peu violent.
Et vous connaissez aussi le réveil militaire, Denis?
Le clairon, bien sûr.
Alors, au son du clairon.
Les Français faisaient pas un an de service à l'époque. Ils en faisaient deux, ils en faisaient trois. Et effectivement, le réveil, c'était ça.
C'est violent quand même. Hein.
C'est militaire.
Voilà. Donc avec notre marque Jazz, on est dans les années
justement après la guerre. Donc c'est pas par hasard que vous nous avez fait sonner ce clairon. La marque Japy faisait des réveils qui s'appelaient le Vainqueur, qui s'appelait Marshall Foch. Et d'ailleurs, Jazz, à sa création, donc en 19, on est encore bien au Vanchard, envisage de s'appeler Aux Armes, O-Z-R.
Oh mon Dieu.
Ah oui, c'est assez terrible.
Ouais, il y avait quelques noms comme ça. Il y avait Aux Armes, il y avait Dortu,
oui.
Et puis, il y en a
pas formidable. Il y avait Oba,
c'était un
acronyme, alors peut-être dû au nom des fondateurs. Il y avait Clairson.
Et pourquoi Jazz? Eh bien, tout simplement, ça se rapportait à la musique américaine qui était très à la mode.
À la mode, c'était moderne en tout cas.
C'était moderne,
mais pas forcément bien vu. C'est assez osé comme nom. Ils ont failli s'appeler Jazz Band et finalement ils ont choisi un nom court. Pourquoi ils ont choisi un nom court en trois lettres?
C'est Jazz en trois lettres. Hein. Il y a qu'un seul Z.
Un seul Z. J A Z. Pourquoi? Parce que Lip existait déjà avant et ça se voit de loin. Vous savez, les marques, les autres marques de montres, d'horloges qui s'appellent...
Moins il y a de lettres, plus on peut écrire gros.
Absolument. Audemars Piguet, comment vous faites? D'ailleurs, même la marque Jaeger-LeCoultre, vous savez bien, se résume maintenant aux initiales JLC, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop long. Donc, JAS est extrêmement bien choisi. Pourquoi c'est si bien choisi? Parce qu'en fait, cette marque est créée par trois personnes. Monsieur Yvan Benel, qui était un industriel, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'horlogerie, même s'il va plus tard lui-même déposer des brevets d'horlogerie. Et un horloger, alors là, un vrai, un grand, Monsieur Brandt, de la famille des Omega, oui, les montres, vous savez.
Les montres Omega, bien
oui,
sûr.
Cette
On
marque,
est dans le très haut de gamme.
Ah oui, et cette marque mondiale qui reste la plus grande marque de montres au monde. Et enfin, un troisième, et c'est intéressant, et c'est nouveau, un publicitaire. Notre cher Georges Skemama, qui va trouver ce nom de JAS. C'est lui qui trouve ce nom. Ce nom, un nom qui claque. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, les créateurs, la première innovation, la première nouveauté de cette marque, c'est le nom.
Donc oui, ça, cette marque, ce potentiel horloger, il ne naît pas du néant. Hein. Les créateurs ont vu un gros potentiel dans le monde de l'horlogerie pour équiper tous les foyers avec un réveil robuste et de qualité.
Hein. Et pas cher.
Et pas cher. Alors, ils étaient quand même vendus... Je crois que c'est pour le prestige aussi de l'objet. Ils étaient vendus chez les horlogers, bijoutiers, joailliers. On n'en trouvait pas ailleurs. Tout le long d'ailleurs de l'existence de cette marque, on en a jamais trouvé ailleurs que chez les horlogers, bijoutiers, joailliers.
Ils ont tenu à ça, effectivement.
C'était vraiment une réelle volonté de garder ce côté un peu prestige, mais populaire aussi, parce qu'on rentre dans la bijouterie, mais on achète quelque chose. Bon, c'est pas super bon marché, mais ça reste très abordable pour avoir quelque chose de qualité et construit pour durer.
Absolument.
pour reprendre le slogan d'une autre marque. Alors, plusieurs particularités à cette marque, JAS. Vous connaissez aussi bien que moi, hein, c'est la sonnerie cristalline. Hein, d'ailleurs, dès les années 20, c'est la propagande principale, la sonnerie cristalline du JAS. Hein, cette sonnerie cristalline qui est due à l'alliage métallique qui est utilisé pour la cloche. Hein.
Voilà.
Ça fait pas un bam-bam un peu bizarre. C'est vraiment cristallin et très agréable à l'écoute.
Cette cloche qui n'est plus au sommet, mais qui est au dos. Là où se trouvent les clés.
Ah oui, ce qu'on appelle la cloche, c'est pas les deux oreilles du réveil qui sont au-dessus. Non, le réveil JAS, la majorité en tout cas, n'ont pas les deux cloches dont je parle. Mais c'est le couvercle au dos du
Exactement,
réveil
c'est
qui
le dos.
Sert de cloche. Et c'est là que le marteau frappe. Et ce dos est fait d'un alliage différent du reste du boîtier. Et ouais,
marteau qui est à l'intérieur du réveil, qui ne se voit plus. Voilà. Alors qu'avant, sur les cloches, on le voyait battre. Là, il est interne.
Le nom aussi, hein, on reste aussi dans les noms. Vous disiez que JAS est le nom de la marque a été choisi pour des raisons bien précises. Et toujours dans la dénomination, donc à partir de 1921, quand les premiers réveils sortent de l'usine, chaque modèle porte un nom qui comporte deux syllabes et qui se termine en « ic ».
Ce qui personnalise les réveils, leur donne une âme, quelque part. Et ces noms sont liés souvent à la forme, à leur couleur, à leurs caractéristiques techniques, à la matière dans laquelle ils sont créés. Donc, on a un bronzique, un boisique, un cuirique, puisqu'il est en cuir, wow. Rondique s'il est rond... verdict s'il est vert, etc. C'est extrêmement lié, ça personnalise, ça humanise le réveil.
Il y a énormément de modèles qui
Il y a 1200 noms, je crois, hein, Boris.
1200 noms qui ont été même repris à travers les décennies. Et des modèles très fiables.
Trop fiables.
Construits pour durer. Trop fiables.
Trop fiables. Alors, c'est paradoxal ce que je dis, mais pourquoi? Alors là, je me mets du point de vue de la marque. Une fois que vous avez vendu un réveil JAS à une famille, ils l'ont pour la vie. Et d'ailleurs, vous avez chez vous des réveils centenaires qui fonctionnent toujours très bien, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le réveil mécanique ne s'use que si l'on s'en sert. Voilà, contrairement au réveil à piles où les piles peuvent s'écouler dedans. Donc, il faut diversifier la production. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va créer des modèles plus luxueux. On crée même des modes. Ils créent des collections, comme dans la mode, le textile. D'ailleurs, ils ne l'ont pas caché. Ils sont mis à faire ce qu'on appelle de l'horlogerie d'ameublement pour que vous ayez une horloge liée à votre salon.
La chambre à coucher, même la cuisine, la salle de bain, on a des modèles étanches.
Oui, beaucoup plus tard.
Hein, oui. Mais ils y ont pensé.
Pour la cuisine, vous avez raison, c'était pas évident. À l'époque, il y avait des carillons, les cuisines étaient très grasses, c'était des conditions dantesques, il y avait de la fumée, etc. Donc, ils ont fait des horloges murales en céramique. Parce que
c'est plus facile à nettoyer.
Bien sûr. Et puis, enfin, apparaît dans ces années-là la bakélite.
Ah, la bakélite. On en parlera après de la bakélite. La célèbre bakélite. Quelques chiffres quand même hein, pour que l'on puisse se rendre compte de l'évolution des ventes de cette marque. On est en 1921, les premiers exemplaires vendus, c'est 10 000 modèles vendus dans l'année 1921. 4 ans plus tard, 1925, on passe à 500 000.
C'est énorme la progression.
Donc il y a vraiment un pic de production, un pic de vente. 1929, on est à 786 000.
Et là, la gamme s'est étendue parce que...
La gamme s'est énormément étendue, diversifiée, avec de plus en plus de modèles. Oh, c'est une époque que j'aime bien.
Bien sûr.
Voilà, il y a toujours cette... Il y a déjà cette créativité. Et puis...
Avant-guerre, on a déjà 50 modèles différents, horloges comprises, dans le catalogue.
Voilà. On est dans la période Art déco.
Ah oui, ils sont très beaux.
Alors forcément, c'est magnifique.
Très beau et très recherché.
Ouais. On va continuer à avancer dans le temps avec Charles Aznavour. Allez,
le temps
et rien d'autre.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre.
L'horizon se lève et rive vermeille, embrasant le ciel d'or. L'heure approche où gaiement
voyez s'éveille en un joyeux espoir. Entendez-vous, dans la brise qui chante, teinte l'écho de joyeux carillons, son cristal de tous les réveils chasse.
Écoutez la sonnerie cristalline du jazz. Jazz vous offre pour 49 francs un nouveau réveil de précision. Un petit réveil de ligne moderne au prix de 125 francs. Une belle faïence, forme et teinte mode à 160 francs. Jazz de 49 à 425 francs chez les bons horlogers.
Chez les bons horlogers, Denis, la marque Jazz.
Ah, c'est vrai qu'elle est datée, cette publicité, qui en fait n'était pas une publicité de radio. C'est le son d'un dessin animé, puisque Jazz est la première marque à s'être développée dans le monde en se basant sur la publicité au cinéma.
Donc oui, c'était une pub de cinéma qui passait donc dans les années 20.
Voilà. Pendant qu'on changeait la pellicule, il y avait des entr'actes à l'époque au cinéma.
Alors il y a le petit dessin animé qui va avec, donc je ne peux que vous inviter à aller sur le site, sur notre site Jazz Le Bon Temps, pour voir cette pub, en voir d'autres. C'est quand même c'est sympathique à voir.
C'est croquignolesque.
Quoi. Croquignolesque, voilà, c'est le mot. Hein. Alors Denis, cette marque Jazz dans les années 20 s'implante en région parisienne, elle s'implante à Puteaux. C'est pas une région horlogère.
Oui, les régions historiquement horlogères en France, tout le monde le sait, c'est la Franche-Comté, c'est Besançon et c'est la vallée de la Cluse. Là, on s'installe à l'ouest parisien où il y avait un fort potentiel d'ouvriers qui n'avaient pas besoin d'être des horlogers puisque c'est de l'horlogerie industrielle. On les forme, contrairement aux régions précédemment citées où c'était des horlogers qui travaillaient. Là, on travaille à la chaîne, on forme des ouvrières et des ouvriers, chapeautés évidemment par quelques horlogers, et qui vont créer ce que vous avez dit tout à l'heure, des chiffres très impressionnants, 10 000, puis 500 000.
Puis 500 000, mais en 4 ans, on passe de 10 000 à 500 000. Hein.
Non, c'est à la chaîne.
Et on produit donc les gros réveils ronds, hein, des modèles assez sobres, pratiques.
Alors ça, c'est tout début, mais très vite, grâce à l'apport des technologies, en particulier de la bakélite qu'on a évoquée tout à l'heure.
Alors, on rappelle que la bakélite, c'est le premier plastique.
C'est ça.
Tout simplement. Hein. Alors, c'est vrai que c'est très, très à la mode. On en parle beaucoup, tous ceux qui sont amoureux du vintage. Voilà, on cherche la bakélite. On met la bakélite à toutes les sauces. Tout ce qui est en plastique n'est pas forcément en bakélite, hein, c'est la petite parenthèse, ne vous laissez pas arnaquer. La bakélite, c'est une matière plastique de couleur sombre. Elle peut être verte, elle peut être le plus souvent marron très foncé, presque noir, un peu avec cet effet marbré, mais en aucun cas vous trouverez, puisque ça n'existe pas, on ne peut pas chimiquement la fabriquer, on ne trouve pas de bakélite de couleur claire, couleur crème, blanc.
Non, ça c'est du polopace inventé.
C'est ce qu'on appelle du polopace, c'est encore une autre matière plastique. La bakélite, on la reconnaît facilement, vous grattez un peu avec votre ongle, puis vous sentez ça a une odeur très très particulière.
Oui, parce que c'est un formaldéhyde qui est chauffé très fort, c'est pour ça que c'est sombre, c'est inventé par Monsieur Beckland. Et alors surtout l'intérêt, c'est que c'est produit dans des moules. Donc on peut avoir enfin des formes originales.
Et on obtient toute la diversité dont on parlait tout à l'heure, une diversité qui se développe donc dans les formes.
Voilà.
On est à une période art déco en plus.
Voilà.
Hein, les premiers réveils jazz en tout cas en bakélite sont art déco.
Absolument.
Voilà, absolument. Cette grande diversité de modèles, c'est une stratégie commerciale. On touche un maximum de public, on touche non seulement la ménagère, on touche les couples, mais également les enfants.
Absolument, on touche les classes moyennes et les classes les plus huppées. D'ailleurs, on l'a entendu dans la publicité de Monsieur Lortac tout à l'heure, l'éventail de prix est assez important. On va toucher les classes populaires, mais aussi les classes bourgeoises, comme on disait à l'époque. avec une grande variabilité de prix, mais aussi de forme et de style et de destination, puisqu'on commence à voir apparaître des réveils de voyage. N'oublions pas qu'on est avant-guerre, il y a les congés payés. Donc, les gens vont partir avec des réveils de voyage. Alors, les premiers réveils de voyage, c'est les petits réveils qu'on met dans des écrins pour les protéger. Et puis, on va faire spécifiquement des réveils de voyage. Et donc, on va employer, entre autres, la bakélite ou le métal.
Jazz s'adapte à l'évolution de la société.
Absolument.
Voilà. Donc, on abandonne un petit peu le coq et on arrive à la pendule. C'est le titre de la chanson qui suit. C'est Claude Nougaro, Le coq et la pendule.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit, comme un hibou, l'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule, du Poitou, dans une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette traite à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan, lui seriner sa séguedille pour imaginer son trépas. Point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou, cocorico. Un coq aimait une pendule.
Un coq qui aime une pendule. Voilà une drôle d'histoire qui se termine à la casserole. Hein. C'était Claude Nougaro. Vous êtes toujours sur Radio Bouton. C'est Culture G avec Boris. Et oui, c'est moi. Et Denis. Denis Raquin qui est venu spécialement de Bourgogne pour... Eh bien, pour nous présenter avec moi, hein, puisque voilà, c'est un collectif, c'est cette collection d'horloges, ce site internet jazzlebontemps.com. Ouais, on parle d'horlogerie en France. On en était
à la guerre.
À la guerre, parce que bon, on a écouté le coq et la pendule, mais le symbole quand même qui reste marqué dans les esprits des Français quand on parle de jazz, c'est alors. On entend souvent la pie.
Voilà.
Jazz à la pie.
C'est un oiseau.
C'est un oiseau. Ce n'est pas un coq. Ce n'est pas une pie. Mais c'est devenu le symbole de la marque grâce à la guerre.
Un petit peu forcé. En fait, la guerre, évidemment, a une grosse influence sur l'entreprise qui est Jazz, puisqu'on a parlé de la bakélite tout à l'heure, mais la bakélite, ils vont plus pouvoir les employer puisque les Allemands réquisitionnent tous les produits, donc ils interdisent la céramique. On ne peut plus faire d'horloge murale en céramique. On ne peut plus faire de réveil en bakélite, donc ils vont se rabattre sur le bois. Et puis, c'est pas tout, ça pose un problème aux Allemands qui veulent mettre leurs pattes sur tout. Même sur la culture, ce nom de Jazz, mais après tout, c'est américain.
Ah, bah, ça n'a pas dû leur plaire beaucoup, Jazz.
Absolument pas du tout. Alors, là, les dirigeants de Jazz ont été assez malins. Alors, quand je dis...
On avait quand même Paul Nicolas qui avait de la suite dans les idées et voilà, il a trouvé ce petite pirouette pour convaincre l'occupant que le nom de Jazz n'avait rien à voir avec la musique américaine.
Alors, on va expliquer qui est Paul Nicolas. Paul Nicolas était un des grand concepteur de la publicité française, il dirigeait la revue Vendre, et il fait partie de ces gens avec Bleustein Blanchet qui font passer de la réclame à la publicité. Donc il faisait la publicité de Jazz, il animait, et d'un coup il se met à devenir lui-même, il se lance dans le bain, dans l'industrie. En fait, il vient en remplacement de notre Yvan Benel, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un des trois fondateurs de la marque, qui était israélite et qui... contraint et forcé, oui, le pauvre, il est obligé d'abandonner son bébé. Rassurez-vous, il va réussir à se réfugier en Lozère et il meurt en 1970. Il n'a pas été déporté. Donc
Paul Nicolas en 41-42 reprend les rênes de la société Jazz.
Et il a une idée de génie. Il se dit mais Jazz, rien à voir avec les Américains. Voyons, absolument, c'est un jazzer boréal. C'est un jazzer de Bohême. Cette région que les Allemands viennent d'annexer, ça peut que leur plaire. Alors ce que les Allemands savaient pas, c'est que le jazzer boréal, dans l'imaginaire populaire français, correspond à son apparition très rare en France, en Alsace au maximum et en Allemagne, puisqu'il vient...
Il n'y en a plus actuellement.
Boréal, hein, non, effectivement. Oui. Il est, correspond à chaque fois qu'on en voit, ben, c'est en 1870, c'est en 1914 et c'est en 1939, ils annoncent des catastrophes.
Et donc ce jazzer boréal, ben, pourquoi avoir choisi un oiseau comme représentant de la marque, eh bien, le chant du jazzer boréal rappelle la sonnerie cristalline du réveil jazz, alors que ça n'a strictement rien à voir et que bah, le chant du jazzer, c'est pas très élégant, c'est pas très agréable.
Mais
à l'oreille.
Visuellement, c'était pas mal cet oiseau dessiné par René Raveau. Il a à l'époque la queue dirigée vers le bas.
Alors oui, c'est un indicateur pour tous les collectionneurs d'horlogerie. Et particulièrement de la marque Jazz, c'est que on a plusieurs périodes. Donc la première période qui va donc de 1921 jusqu'en 1941 où la marque c'est juste les trois lettres, bon un peu stylisé hein, bien sûr c'est l'époque. En 41 apparaît donc l'oiseau, la queue en bas.
C'est ça.
Et c'est en 67 avec une redynamisation, modernisation aussi des techniques que le logo est repris, est plus modernisé, plus épuré.
L'oiseau est plus vainqueur.
Il
dresse sa queue vers le...
Vers le haut, c'est-à-dire que la queue et la tête indiquent 10h10.
Exactement, Boris.
Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est également à cette époque que Jazz produit son 10 millionième réveil. Hein.
Pendant la guerre, en fait.
Pendant la guerre. Hein. D'ailleurs, pendant la guerre, ils n'ont pas arrêté de faire de la publicité, de faire de la promotion. Même s'ils avaient un mal de chien à livrer les horlogers, la fabrication était difficile. On se souvient également qu'ils récupéraient des vieux modèles, ils récupéraient même des vieilles boîtes, etc. C'était du recyclage. Pendant la guerre, c'était du recyclage.
Jazz a résisté, donc.
Et Jazz a résisté.
Il y avait effectivement des résistants au sein de l'usine, quelques... israélites qui avaient réussi à être cachés, et entre autres, on a un cas très célèbre, puisque le fameux écrivain Georges Perec, l'auteur de La Disparition,
oui, c'est le fameux roman où il n'y a pas du tout la lettre E.
Essayez de faire une phrase sans lettre E, c'est incroyable.
Je ne vais même pas essayer.
Ah non, c'est pas possible. D'ailleurs, Comment pouvait-il évoquer le mot, la notion de réveil? Il y a un E. Pendule, il y a un E.
Horloge,
il y a un E. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il emploie cette antonomase. On va expliquer ce que c'est qu'une antonomase. Il emploie le mot jazz. Boris, chez vous...
J'ai plein d'antonomases chez moi.
Voilà.
J'ai du sopalin, j'ai un frigo.
Voilà, donc vous ne dites pas essuie-tout, vous dites sopalin.
Exactement.
Vous ne dites pas réfrigérateur, vous avez dit là?
J'ai un frigo.
Un frigo, absolument. Et on ne disait pas...
Ce sont les plus connus, hein.
Oui, mais il y en a bien d'autres. Fenêtre de toit.
C'est pas le Velux.
C'est ça, Boris. Et on ne disait pas un réveil, on disait jazz.
Non, donc, on l'entend, on le lit même de San Antonio.
Ah, il dit jamais réveil.
Ah, le fameux San Antonio, il dit jamais réveil. On le voit de temps en temps quand il évoque une table de nuit ou je ne sais pas quoi. Il dit son jazz.
Absolument.
Voilà.
Et donc dans le roman La disparition de Pérec, à la première phrase, il évoque jazz, qui en fait d'ailleurs est le symbole de sa mère, puisque sa mère, hélas, est disparue dans les camps. C'est ça la vraie disparition. Travaillait dans l'usine jazz où elle a été arrêtée. Alors qu'elle traversait... elle avait été coiffeuse à l'origine, mais ils n'avaient plus le droit d'avoir d'entreprise, les Israélites, donc ils étaient employés. Elle traversait tout Paris en métro, dans la dernière rame, avec l'étoile jaune. Et hélas, elle a été arrêtée dans l'usine de Puteaux.
Alors, après la guerre... La gamme se développe, continue à se développer toujours et encore, et on voit apparaître, se multiplier les usines. Jazz s'implante à Colmar.
Ils reprennent une marque.
Ils reprennent la marque Cara qui fabriquait des modèles de luxe.
Exactement, hein. Des petits modèles de luxe qui avaient la particularité d'avoir une sonnerie limitée. Ils ont beaucoup fait de publicité là-dessus. C'est une sonnerie qui, alors on faisait sonner soit 5 secondes, soit 10 secondes, soit 20 secondes, soit en continu.
Donc l'usine de Puteaux existe toujours.
Oui.
On implante une usine à Colmar avec ce rachat de la marque Cara.
Mais c'est encore pas assez.
Comment?
C'est pas encore assez, tellement il se développe.
Voilà, c'est pas encore assez, donc il leur fallait des plus grands locaux. Donc on est juste à côté de Colmar, à Witzenheim, un nom que tous nos amis collectionneurs connaissent bien. Hein, d'ailleurs, les locaux existent encore en grande partie. On retrouve encore les vestiges de la marque Jazz là-bas à Witzenheim.
C'est une ancienne usine de filature, une grande usine qu'ils occupent entièrement. Donc là, on est déjà à 3 usines. Ils ont même quelque chose à Annecy. Et puis, c'est pas assez, il croque la marque Japy en 1954. Alors Japy, on l'oublie, mais on l'a oublié.
C'est quand même une grande, grande marque, Japy. Ah,
historiquement, c'était la première grande
marque. C'était pas que de l'horlogerie, Japy.
Non.
Moi, je me souviens avoir eu une machine à écrire,
absolument.
Japy.
Il y avait
On voit encore traîner des boîtes de clous de marque Japy. Il y a plein de choses.
Pendant la Première Guerre mondiale, les casques Adrian étaient fabriqués, entre autres, par Japy. C'était la deuxième industrie française qui s'était diversifiée. Il y avait différentes branches. Donc, une branche avait été confiée à des fils Japy, qui la géraient pas forcément bien. Mais Japy avait été une marque prestigieuse, décorée à tous les concours et toutes les expositions universelles de médailles d'or, parce que c'était à la fois des modèles populaires, et puis des modèles de prestige.
Et contrairement à d'autres marques qui ont été absorbées par Jazz, Japy est devenue la sous-marque de Jazz, donc des modèles moins chers avec des matériaux moins nobles.
Relégué en fin de catalogue.
En fin de catalogue et d'ailleurs en noir et blanc. Hein. Les photos étaient en noir et blanc, alors que
ils sont devenus parents pauvres alors que
Jazz était en couleur.
Voilà. Ça va de pair avec une production colossale, puisqu'on est à combien de réveils, Jazz?
Eh bien, en 1957, j'ai les chiffres sous les yeux, on produit le 20 millionième réveil depuis la création. Donc,
c'est énorme.
Rappelle, enfin, la création en 1919, mais les premiers réveils sortent de l'usine en 21. Voilà, 20 millions de modèles sortis en 1957.
C'est colossal.
C'est colossal. Une petite pause musicale à présent, c'est la bande originale du film La prophétie de l'horloge, hein, il est sorti il n'y a pas très longtemps avec Jack Black et Kate Blanchett. Voilà, c'est un morceau qui s'appelle Tick Tock Goes the Clock par Joe Blankenburg. Oh là là.
Thank you.
tic-tac, tic-tac. L'heure continue de tourner sur Radio Bouton. Vous êtes sur le 90.6. On est ensemble dans Culture G. On parle d'horlogerie, on parle de la marque Jazz, on parle d'une collection absolument formidable, Denis.
Et chez vous.
La collection qui se nomme la collection Jazz Le Bon Temps et ce site internet. On a quand même mis 2 ans hein, pour le lancer, donc qui a quand même un petit peu de matière à présenter à nos lecteurs. Hein, jazzlebontemps.com. Vous avez les chiffres, Jazz Le Bon Temps, c'est
quand
même.
On a 4000 visiteurs par an maintenant.
Combien d'articles?
Alors 2100 articles.
Combien de photos?
20 000.
Alors un site qui regroupe à la fois tous les modèles qui ont existé,
donc les fiches techniques.
Les fiches techniques hein, avec leurs noms, avec leurs années de production, avec des photos de sous toutes les coutures et même à l'intérieur. On a différentes rubriques sur les célébrités qui ont possédé des réveils ou qui ont croisé la marque Jazz au cours de leur carrière. On a une rubrique Jazz à l'écran où l'on voit.
C'est votre spécialité. Ça.
Ah, c'est ma spécialité.
Vous aimez
oui,
ça.
Je regarde beaucoup de films et ah tiens, on voit un panneau publicitaire, on voit une plaque émaillée, on voit un réveil sur une table de nuit dans Amélie Poulain, dans Men in Black, j'en passe et des meilleurs. Eh oui, il y a des réveils jazz partout et même dans la zizanie avec De Funès et Annie Girardot. Puis j'en passe tellement parce que il y a tellement de choses, les gens se perdent hein, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas habitués se perdent un petit peu. On reçoit beaucoup de messages hein, j'ai ce réveil là que j'ai retrouvé dans le grenier de la grand-mère mais j'arrive pas à le trouver sur votre site. Donc on a un service après-vente, on va dire.
Voilà, on les guide.
On guide quand même.
On est là gratuitement évidemment, généreusement.
C'est gratuit, c'est bénévole, c'est généreux et on est prêt à donner la collection, Denis.
Oui, si un musée nous appelle demain en nous disant, écoutez, cette collection nous intéresse, on la donne puisqu'on l'a pas créée pour nous, cette collection. On l'a créée pour nos lecteurs. Quand on a créé le site, on s'est rendu compte qu'il y avait, bon, on avait beaucoup de réveils en commun qui nous plaisaient. On s'est même mis à acquérir des réveils qui nous plaisaient pas trop, qui étaient pas...
On n'a pas le choix.
Non.
Quand on commence à présenter une collection sur un site internet ou autre, mais bon, là, on fait avec notre temps, évidemment, c'est très bien. Mais le voisin qui vient avec son réveil, qui dit c'est quoi le mien, je l'ai pas trouvé sur votre site parce que vous l'avez pas. Donc très vite, de la présentation d'une collection, on est arrivé.
On voulait être exhaustif.
On est arrivé à une encyclopédie.
Absolument.
Et on a développé vers de très nombreux domaines, toujours en lien avec l'horlogerie, la petite histoire dans la grande histoire.
Absolument.
Donc dernièrement, on a découvert un réveil jazz aux accords d'Evian.
À l'hôtel du Parc, c'était le seul élément de décor de cet très important accord avec les futurs Algériens. C'est incroyable. Alors pourquoi ce stélique se trouve au centre de la salle?
On y travaille. Hein, c'est très récent. On a déjà nos petites idées. Et puis ouais, c'est votre spécialité.
Absolument.
de remettre la petite histoire dans la grande histoire. Alors en ce qui concerne notre oiseau jazzer, hein, on était au 20 millionième modèle sorti. Non, le 20 millionième réveil.
C'est cela.
Sorti en 1957. On arrive en 63 et là, on voyage, on est en Inde.
Oui, et Jazz va ouvrir une très grande usine en Inde, un petit peu contraint et forcé. La marque se développe, la mondialisation commence, mais les gouvernements ne veulent pas voir leur monnaie partir, si je puis dire, donc ils incitent. Et on ferait dire, ils obligent les industriels à s'installer, par exemple en Inde, mais ce sera le cas aussi au Brésil, où il y avait des grosses taxes sur les produits importés. On a dans notre collection un réveil jazz avec une pastille dessus, qui est la vignette obligatoire qu'il y avait pour les produits importés, de manière à ce qu'il y ait aussi un transfert des technologies, à ce qu'on forme des Indiens à une industrie horlogère. Donc les réveils qui sont vendus en Inde sont fabriqués sous licence, mais avec un petit souci. Boris.
Ah, le petit souci, c'est pas vraiment un souci, mais c'est vrai que ça a été assez déstabilisant quand on a eu nos premiers réveils indiens entre les mains. On dit mais c'est un modèle qui date des années 30, 40.
Absolument.
Ils étaient... Alors que non, ils datent bien des années 60. Ils ont repris en fait des anciens modèles.
C'était un marché qui démarrait, donc ils avaient besoin de réveils robustes et simples, donc ils ont repris les premiers modèles de la batterie.
On revient dans le passé.
Et après, ils ont rattrapé le temps perdu, les Indiens, vous inquiétez pas.
Mais il n'y en avait pas qu'en Inde, hein, des succursales non, jazz.
Et alors là, ça devient très intéressant. Alors, ils créent des usines en France, à Nanterre, c'est une usine laboratoire, c'est une usine de recherche, on travaillait sur le transistor, mais on va en parler tout à l'heure, sur l'électrique. Puisque Jazz devient le plus grand exportateur de modèles à transistor 100% électrique dans le monde. Et puis, ils font appel à des designers. Ils font appel, par exemple, pour le drilling, à Monsieur Charbonneau.
Monsieur Charbonneau, c'est quand même un grand nom.
Ah oui, puisqu'il est le créateur de la R16, il est le créateur de la Corvette. Vous savez, la nénette aussi, pour nettoyer les voitures.
Ah oui, la nénette.
C'est lui qui l'avait designé. Et en fait, là où ça devient très intéressant, c'est que il y a une usine à Nancy. Enfin, il y en a partout dans le monde. Il y en a une en Espagne.
Et il y en a à Bruxelles.
Alors, pas vraiment une usine, mais il y a Jazz et ça Bruxelles. Quoi. Voilà, c'est ça, Jazz et ça Bruxelles. Oui. Alors, la Belgique leur sert un petit peu de ballon d'essai.
Et puis, une adresse qui nous parle beaucoup, nous, les collectionneurs, c'est la rue La Boétie, dans le 8e arrondissement à Paris. Une adresse qui existait déjà avant et qui devient le siège social de la marque Jazz. On y est allé.
Oui, et bien sûr.
On a eu du mal à trouver, hein,
oui,
quand même.
Oui, c'était les services commerciaux qui deviennent le siège social et de Jazz. Il fallait... C'est une entreprise parisienne. D'ailleurs, sur les réveils, plus tard, ce sera indiqué Jazz Paris. Alors, on devine que c'est Jazz France, c'est Jazz Paris.
Alors, une autre adresse qui est chère à nos cœurs, nous les collectionneurs, c'est la rue La Boétie, dans le 8e arrondissement, qui devient donc dans les années 60 le siège social de la marque Jazz. Alors, on y est allé.
Oui.
On a eu du mal.
On était heureux. Hein.
On était heureux quand on a trouvé ce siège social. Le bâtiment n'a pas changé. Voilà, c'est vrai que ça nous a fait voyager quand même. Hein. Ça nous a fait voyager. On a eu l'occasion donc d'aller à Colmar, à Witzenheim, donc sur les vestiges de l'usine alsacienne. Et puis on a voyagé un peu plus même. Hein.
On va expliquer ça tout à l'heure.
On explique tout à l'heure. On va écouter. Ah tiens, un petit peu de légèreté. C'est Ponchielli. Ouais, un petit peu de mal, hein, des fois, avec l'accent italien. La danse des heures, hein, vous allez reconnaître parce que c'est une musique qui a été utilisée dans Fantasia. Bah oui, c'est la danse des...
Avec les autruches?
C'est la danse des autruches, juste avant les hippopotames.
Exactement. Thank you.
C'était Ponchielli, la danse des heures. On aurait pu écouter un peu plus, hein, mais bon. On garde la musique classique pour la programmation du dimanche soir sur Bouton, Radio Bouton 90.6. Je suis avec Denis Raquin, en face de moi, avec ses beaux yeux bleus.
Votre complice en collection et en création du site Jazz de Bontemps.
.com. Voilà, on parle d'horlogerie, évidemment, pour cette dernière émission de la saison. Hein. Je partage un petit peu mon univers personnel. Hein. Ceux qui suivent un petit peu mes aventures sur l'antenne de Bouton, on sait que je suis d'accord animateur radio, mais également animateur en EHPAD. Et puis, ce qui est beaucoup moins connu, ouais, c'est cette passion pour l'horlogerie qui se développe de plus en plus. Et puis grâce à vous, hein, qui me faites découvrir, Denis, qui me faites découvrir cet univers, hein, je le dis sans arrêt, la petite histoire dans la grande histoire, qui nous permet aussi de savoir ce que l'on est quand on sait d'où l'on vient.
Exactement, et c'est chez vous que je trouve une des plus grandes collections de France d'horloges et de réveils.
Chut, faut pas le dire. On est dans les années 60, hein, on continue à explorer toute l'histoire de cette marque. On est en 1965, on fabrique de plus en plus de réveils électriques. Hein, donc, réveil électrique, c'est des mécanismes qui fonctionnent avec des piles. Hein,
absolument. Alors,
en parallèle du mécanique.
Ça continue
et on relève un chiffre, 35% des réveils électriques par rapport à l'année précédente, donc de 64 à 65, la production est augmentée de 35%, donc ça dénote d'une volonté aussi de modernisme pour les Français. Et puis c'est quand même pratique parce que on met la pile, ça va durer, je sais pas moi, peut-être un an. C'est pendant un an, on n'a pas besoin de remonter la pendule.
Voilà, les générations d'aujourd'hui ont oublié que les générations précédentes remontaient tous les soirs leur réveil, puisque l'autonomie d'un réveil mécanique, en général, c'est 30 heures. Mais en fait, Jazz accompagne l'évolution technique de l'époque, mais aussi la génère, la produit, puisqu'ils ont cette usine laboratoire dont nous avons parlé à Nanterre.
À Nanterre, oui.
Voilà, où ils vont créer des modèles électriques de plus en plus petits, avec des perfectionnements comme en 69 l'adjonction d'un dateur, donc jour
et
date.
Le jour et la date qui apparaissent sur le cadran, et puis également la fonction répétition.
Ce que permet un réveil électrique, la répétition de sonnerie.
Quand on n'est pas réveillé une première fois, ça ressonne une deuxième fois.
Voilà.
Ça recommence.
Voilà.
On a également le tic-tac discret.
Ah, c'est l'avantage de l'électrique. Ça fait beaucoup moins de bruit que les réveils mécaniques. D'ailleurs, là, en fond.
On l'entend bien,
on l'entend tic-tac.
Alors, qui peut être agaçant, comme il peut bercer.
Il peut être rassurant, oui, effectivement. Et vous l'avez vécu, Boris, votre réveil mécanique qui s'arrête la nuit, ça vous réveille.
Exactement. Rien que le tic-tac de la trotteuse d'une horloge électrique, hein, d'une horloge à pile. Quand ça s'arrête, on l'entend.
Exactement, paradoxalement, le manque s'entend. Mais on a sauté une étape extrêmement importante.
Bah oui,
en
bah
1967,
bien sûr.
Dans le cadre du marché commun, Jazz signe le premier accord inter-européen avec une société allemande. Alors, Peter Huron, qui se trouve à Rottweil, nous sommes allés ensemble...
En forêt noire.
Oui, l'usine est toujours là. Alors, c'est devenu, cette ironie et c'est très symbolique, c'est devenu une agence pour l'emploi, puisqu'effectivement, comme toutes les entreprises d'horlogerie européenne, elles ont quasiment disparu. Et donc, Jazz signe un accord de collaboration, parce que les Français...
Donc, Jazz a collaboré avec l'Allemagne.
Voilà, c'est une habitude des Français. Non, on leur confie... des choses un peu simples, un peu grossières, qui n'intéressaient plus tellement Jazz, c'était de faire les gros réveils mécaniques. Nous, on se réservait...
Des gros réveils aussi avec une certaine esthétique et beaucoup de couleurs,
oui,
qu'on retrouve beaucoup en ce moment avec cette mode du vintage et la couleur orange, les couleurs acidulées.
Jaune, vert, très fort.
Voilà, ça revient à la mode, et d'ailleurs, les gens qui viennent chez moi voient ces réveils et tout de suite, ah, il est magnifique celui-là, j'en veux.
Voilà, exactement.
Je dis, il y en a quand même des mieux que celui-là. Hein.
Et Jazz se réservait la fabrication des réveils de luxe et des réveils électriques et les innovations, etc. Et laissait faire un petit peu par son associé allemand, Peter Uhren, qui avait sa propre production, des gros réveils de base, dirons-nous.
C'est à cette période qu'on voit apparaître le transistor.
Oui, alors le transistor, c'est encore...
Je crois, Denis, qu'il faut expliquer ce que c'est que le transistor, vite fait, parce que bon, le transistor, c'est... On l'associe
à la radio. Ah, absolument.
On l'associe à la radio. Le transistor, c'est un petit composant électronique qui en fait va rendre le flux électrique plus stable, plus régulier, hein, et obtenir ainsi un tic-tac régulier pour que le réveil donne l'heure précise le plus longtemps possible. Ça a été remplacé après par le quartz que l'on utilise encore de nos jours, qui permet au flux électrique d'être encore plus stable, encore plus régulier.
C'est à l'occasion de l'apparition du quartz que Jazz va se relancer, si je puis dire, dans les montres. Alors ça, c'est le domaine de notre ami Stéphane Gorget, avec déjà quand même 40 modèles de montres Jazz, et faire de Jazz le plus grand exportateur de montres aux États-Unis.
Alors Stéphane, on va saluer Stéphane, hein, qui est Bonjour. Certainement en train de nous écouter. Le site, il a un site internet également. Stéphane, c'est peut-être l'occasion de faire un peu de pub.
Oui, pour Jazz Montre Vintage.
Voilà, c'est Jazz Montre Vintage. Allez faire un petit tour. Hein, voilà, il y a de très belles animations qu'il a fait lui-même et une très belle collection qui continue à se développer. Hein, ce qui prend moins de place que la nôtre.
Oh
d'ailleurs.
Mon Dieu.
Alors ça c'est un conseil à faire à tous les collectionneurs, quelle que soit la collection, collectionnez des petits objets.
Voilà.
C'est un conseil d'amis, collectionnez des petits objets.
Oh d'ailleurs, Boris, soyons honnêtes, on collectionne pas les horloges Jazz comptoises, qu'on appelle les horloges de parquet.
Il y en a une douzaine, je crois. Il y a des comptoises, c'est une bizarrerie des années 80 qui est pas très élégante.
Pas beaucoup.
Et voilà. Puis pas très non plus intéressante techniquement parlant. En 1973, la marque Jazz atteint 87% de taux de notoriété.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 9 Français sur 10 connaissent la marque. Et
c'est fou, hein.
C'est énorme. Et elle est exportée dans 74 pays et la plupart des gens ne disent pas un réveil, ils disent un Jazz.
Bah, cocorico dans tout le monde, hein.
Oui, on peut être fier.
On peut être fier, hein.
Après, ça va être le déclin, hélas, les Japonais...
C'est le début du déclin.
Oui.
C'est le début du déclin, c'est l'arrivée de Matra.
Oui.
Matra qui rachète, entre autres, donc la société Jazz. C'est la fabrication de réveils en plastique, donc c'est déjà moins esthétique, moins élégant. Plus jetable, on va dire aussi, hein, moins fiable.
C'est la période qui veut ça.
C'est d'ailleurs les modèles qu'on a le plus de mal à trouver. C'est à partir de cette période-là, puisque les gens ne réparaient plus leur réveil, n'allaient plus en horlogerie pour réparer le réveil. Ils jetaient et ils en achetaient un autre.
Oui.
Voilà.
On a quand même un petit rebond dans les années 80. C'est ça, Boris?
Déjà, les usines ferment.
Les unes après les autres.
Ça fusionne plus ou moins avec d'autres marques comme Yema, Seiko, Lorus, Pulsar, voilà, tout ça, ça crée un...
Japonais entrent dans la danse.
J'ai envie de dire un conglomérat.
Oui, c'est ça.
De marques.
Pour essayer de sauver les...
Donc Jazz est un petit peu noyé dans cette masse. Et puis ça continue à fermer un peu partout. Et puis on arrive...
Et d'ailleurs, les réveils n'avaient plus de nom.
À partir de 84, et d'ailleurs ça a été notre motivation dès le début, parce qu'il faut quand même se donner des limites. Notre collection Jazz Le Bon Temps s'arrêtait en 1984, puisque les noms, les fameux noms en deux syllabes qui se terminent en hic, c'est terminé. C'est remplacé simplement par une référence.
Des chiffres.
Donc c'est
beaucoup moins drôle.
J'ai envie de dire que le réveil est déshumanisé.
Absolument, absolument.
voilà, ça perd ce petit côté familial, familier. Et puis
il y a une tentative de renaissance avec Marc Augier.
Ouais, ça a fermé, mais Marc Augier a essayé de reprendre les rênes en 97.
Avec une gamme jazz de prestige, des réveils en bois et des rééditions.
Des rééditions, ouais, on retrouve des rééditions de toutes époques, d'ailleurs, hein, dès les années 30, 40, il reprend et puis voilà, il fait son choix. C'était quand même de la bonne qualité.
Oui, il faisait des réveils en bakélite.
On avait même été assez surpris quand on en a reçu et on s'attendait à quelque chose de plus light.
Hein, et c'est le domaine de notre ami Marc Barra qui lui collectionne depuis le début, mais aussi au-delà, contrairement à nous de 84 jusqu'en 2000, et c'est lui qui nous a donné un petit peu le goût, il nous a ouvert.
C'est-à-dire la grande majorité des photos et des articles qui sont créés
c'est
sur les modèles
les
d'après 84. Oui. Voilà, c'est grâce à Marc Barra à Cannes. On lui fait un grand coucou. On espère le rencontrer bientôt. Eh oui, il y a des gens que l'on connaît très bien, mais qu'on n'a jamais rencontrés, qui participent activement à la création. Oui, on est toujours en création de toute façon.
Absolument. Hein,
donc au développement de.
On fédère les collectionneurs et on expose leurs collections,
même les petites collections.
Et
il y a une page.
On a des dames. Alléluia. Ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, contrairement.
Ah, les mécaniques n'est pas qu'une affaire d'hommes. Oui, on a des collectionneuses, voilà, qui ont la possibilité. Tout le monde a la possibilité, si vous désirez, de présenter votre collection d'horlogerie.
Grande ou modeste,
sur
peu
le
importe.
Site. Oui, on a des collections de 10 réveils.
Hein. Oui, c'est mignon.
Oui.
La collection commence à 3. On est d'accord?
Et jazz de nos jours.
Alors, nous allons parler de notre ami Julien Clairet, qui est l'actuel propriétaire de la marque. C'est un homme très intéressant qui est ce qu'on appelle antiquaire de marque.
Antiquaire de marque, oui.
Oui, c'est drôle ce métier. Il rachète des marques, il les revend, il les revalorise. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Des marques comme Lion Noir, le Cirage, Olida, les voitures Lassalle, enfin peu importe.
Les biscuits Gringoire.
Exactement.
Madame Soleil.
Et tant d'autres Top 7.
Vous savez, Madame Soleil, c'est une marque.
Oui.
J'ai découvert ça grâce à Julien.
Grâce à lui, oui. Et en fait, c'est la première marque jazz dont il s'est entiché. Et il a décidé de participer un petit peu comme Paul Nicolas, le publicitaire, était entré dans la danse avec jazz.
Donc plutôt que de revendre la marque, il a essayé de la relancer.
Voilà, il l'a relancé avec...
Le processus est en cours.
Voilà, c'est ça. Alors, plusieurs essais. Faut le savoir, de nos jours, on recommence par les montres, parce que industriellement c'est plus facile, plus intéressant, mais il tient beaucoup à se conserver l'ADN de la marque. On lui souhaite bonne route, on lui souhaite bonne chance. C'est un grand ami, il nous a beaucoup aidé, il nous a fait des cadeaux superbes, comme un énorme réveil de Maharaja, hein, qui avait été offert à un Maharaja indien.
Qu'il a fait revenir d'Inde.
Exactement. Que vous pouvez voir sur notre site.
Que vous pouvez venir voir dans mon salon.
Voilà.
Avec un café. Dans mon salon. Avec plaisir. Avant de nous quitter, Denis, une page de publicité. Alors, on n'a pas l'habitude, hein, Radio Bouton. Radio Bouton, c'est une radio associative et scolaire. Donc oui, on ne fait pas de pub, mais on va en passer une pub de 1975 qui va vous faire retomber en enfance, je crois.
Ben oui, parce que c'est Nounours, Nicolas et Pimpronel, ça a bercé mon enfance. Vous savez, le marchand de sable sur son petit nuage, eh bien, Jazz s'en est servi pour faire de la publicité.
Ce que Jazz électronique fait tic-tac au silence, il vous laisse dormir quand il faut. Poum, poum, poum.
Ah oui, ça nous fait retomber en enfance, hein. Nounours, le marchand de sable. La publicité, on la retrouve facilement sur Internet, sur le site de l'INA
peut-être, oui.
Voilà, ou alors sur notre site.
Vous avez
dans la rubrique publicité télévision,
ah bah,
sur jazzlebonton.com. Et puis il y en a une autre, donc cette publicité dont le slogan a inspiré le nom de notre site.
C'est vous qui l'avez choisi, c'est Jazz le bon temps.
Elle date de 1982.
Il y a l'heure du premier rendez-vous et l'heure des braves, l'heure de la liberté. Les heures supplémentaires. Et aussi l'heure des grandes décisions. Jazz, c'est toujours le bon temps. Et ce sera toujours le bon temps.
Alors Denis, j'ai été ravi de vous accueillir dans mon émission, de vous accueillir dans les studios de Boutancourt. Ouais, ravi de d'avoir passé cette semaine avec vous, puisque bon, vous avez passé, on a passé quelques jours ensemble. Mais c'était pas anodin.
Non, on avait prévu l'enregistrement de cette émission depuis longtemps de radio, mais on a aussi...
Ah, c'est une surprise, on le dit pas.
Ah si, on est passé devant les caméras.
Il y a des caméras.
Une chaîne nationale importante est venue filmer votre collection.
Alors, il est encore un petit peu tôt.
Ils sont allés chez moi aussi.
Pour en parler, je crois que la diffusion, c'est en décembre ou janvier.
Vous en parlerez, Boris.
On en reparlera. On donnera les liens qui vont bien pour mettre des images sur tout ce qu'on vient de dire depuis le début de cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, avec grand plaisir, sur Radio Bouton ou ailleurs. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre. Oui, ça y est, c'est les vacances. On va se reposer, on va éteindre les réveils et on va dormir sur nos deux oreilles. On se quitte avec Clockwork, un morceau de Philippe Klein. Alors, on connaissait pas, mais on a trouvé ça vachement sympa. Donc, on se dit que, on va diffuser. Il n'y a pas de raison. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes vacances sur Bouton. À bientôt!
Les 3e et 4e jeudi de chaque mois à 18h, retrouvez Boris dans Culture G. Culture G, c'est un concentré d'anecdotes, de réflexions ou d'histoires appliquées à la chanson. Boris vous propose un artiste, un événement ou encore un concept abordé en musique. Culture G, l'émission qui fait le point sur Bouton.